Si vous voulez vous tourner avec moi dans Hébreux, vous avez sans doute remarqué, lorsqu'il y a des mouvements de grève en France, souvent on laisse la situation se pourrir un peu, chaque côté espère que l'autre va se lasser. Et puis lorsque ça dure trop longtemps, lorsqu'il y a des grèves de pilotes ou des grèves de routiers, le gouvernement a recours à l'arme puissante du médiateur. Médiateur, c'est quelqu'un qui est chargé de rentrer en contact avec les deux côtés et de pouvoir régler le problème en essayant d'avoir à la fois la vision de ceux qui sont en grève, la vision de ceux contre qui la grève est en place, pour arriver à concerter, à arriver à un accord. Et jamais, bien sûr, on a les deux points de vue qui sont parfaitement mis en harmonie, mais au moins on arrive à des compromis, on arrive à un accord qui permet de reprendre le travail, qui permet de régler en quelque chose la situation, même si on sait qu'elle est loin d'être parfaitement réglée. La Bible nous apprend que nous avons un parfait médiateur. Et comme je le disais, pour qu'un médiateur soit vraiment efficace, il faudrait qu'il soit à la fois routier et à la fois patron. Et là, on pourrait avoir les deux points de vue vraiment en harmonie. Et Paul nous dit dans 1 Timothée 2:5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Ce médiateur n'a pas quitté sa mission en cours de route, comme ça arrive parfois avec des médiateurs dans les grèves, mais il est allé jusqu'au bout, il est allé à la croix. Et Jésus, encore une fois, c'est un médiateur parfait parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. Complètement Dieu, complètement homme. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à concevoir. Mais en même temps, si on s'écarte de cette vérité qui est annoncée, qui n'est pas une vérité erronée, c'est une vérité clairement annoncée, répétée, fondamentale à la foi chrétienne, Dieu est à la fois homme, Jésus est à la fois Dieu complètement, et il est complètement homme également. Et si on s'écarte de cette réalité, alors à ce moment-là, on tombe dans les sectes. On tombe dans l'erreur, dans le mensonge. Et c'est typiquement ce que font les sectes. Elles ne reconnaissent pas qu'il est Dieu. Elles rejettent sa divinité. Elles font de lui un grand homme, un grand prophète, un grand sage, un grand philosophe, quelqu'un de bien, mais qui n'est pas Dieu. L'autre erreur, c'est de ne pas reconnaître qu'il est homme complètement. C'est de rejeter son humanité. Et généralement, les chrétiens sont vigilants sur la première erreur. On s'élève tout de suite, on s'insurge contre les sectes qui disent que Jésus n'est pas homme. Que ce soit les Mormons, les témoins de Jéhovah, qui disent qu'il est le frère de Lucifer ou qu'il est l'ange Michel. Mais on oublie des fois que Jésus est un homme à part entière. Et j'aime bien ce qu'un commentateur disait, qu'en fait, Hébreux, le premier chapitre de la lettre aux Hébreux, avait été écrit pour montrer que Jésus était vraiment Dieu. C'était pour contrer les fausses doctrines qui renient sa divinité. Et vous vous souvenez juste, on a dit que la lettre avait été écrite à des juifs qui avaient une tendance à se détourner de la foi chrétienne, de leur nouvelle foi en Christ, parce qu'ils étaient l'objet de persécutions. Et l'auteur de la lettre, on ne sait pas qui c'est exactement, on ne pense pas que ce soit Paul, bien qu'il y a beaucoup de ces points de doctrine qui sont répétés, qui sont annoncés, mais c'est quelqu'un de l'entourage des premiers disciples qui connaissait très bien l'Ancien Testament, qui le citait souvent dans la version grecque, qu'on appelle la version des Septante, mais qui connaissait vraiment de fond en comble toute la parole de l'Ancien Testament. Et on a vu que Christ était montré comme étant plus grand que les prophètes, c'était les premiers versets du chapitre 1, puis on a vu qu'il était plus grand que les anges. À l'époque, on pensait, et c'était un fait qui est mentionné plusieurs fois dans la Bible, que les anges avaient participé à la révélation des 10 commandements aux hommes. Mais il y a une déclaration remarquable de la divinité de Jésus-Christ, du fait qu'il est Dieu, c'est que le Père lui-même a dit, ça c'est Hébreux 1.8, notez-le dans votre tête, Hébreux 1.8, notez-le dans votre Bible, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là, ils vieilliront tous comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Si le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, ça me suffit pour penser que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et tout le Nouveau Testament nous indique, en fait, c'était la raison pour laquelle il a été persécuté par les chefs religieux, c'est parce qu'il se faisait aussi grand que Dieu. C'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix. Il a été persécuté parce qu'il disait de toute évidence, et tous les gens de l'époque, les juifs qui connaissaient la parole de Dieu mieux que certaines sectes aujourd'hui, bien sûr, nous disaient que Jésus a dit qu'il était Dieu. Mais c'est le plus beau témoignage, c'est le Père qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et puis, donc, ce premier chapitre, il est là pour nous montrer que Jésus est vraiment Dieu. Le chapitre 2, qu'on va terminer aujourd'hui, on a vu la semaine dernière une première partie dans laquelle nous étions mis en garde de nous éloigner de partir à la dérive en négligeant le si grand salut qui est en Jésus-Christ. Et ce qui est terrible avec la dérive, c'est que pour dériver, il suffit de ne rien faire. C'est pas compliqué. Si vous laissez vivre, les chances sont grandes que vous allez commencer à vous éloigner des vérités de la Bible et vous partir loin du vrai salut. La partie que nous allons voir aujourd'hui à partir du verset 5 du chapitre 2 est écrite pour contrer la fausse doctrine qui dirait que Jésus n'est pas vraiment un homme. On va lire ensemble ces versets. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en lui, et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Christ est supérieur aux anges dans son humanité. C'est ce que nous dit le verset 5. Ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le monde à venir, ce n'est pas le paradis, c'est le mot qui désigne le règne de 1000 ans sur la terre. Donc c'est la terre lorsque Jésus va régner sur elle, lorsqu'il va revenir à la fin des temps et régner sur elle pendant 1000 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur va abondamment citer le psaume 8 de David. Il nous dit donc que ce n'est pas à des anges qu'il a chargé les hommes, qu'il a chargé de régner pendant le règne de 1000 ans, mais par contre, nous allons voir qu'il y a des passages qui nous disent que l'homme a été créé pour gouverner, et ce sont des hommes comme vous et moi qui vont régner avec Christ sur les anges. Wow. Ça paraît un peu bizarre. C'est peut-être même pas quelque chose que vous souhaitez faire. C'est pas quelque chose que vous rêviez de faire. Régner sur les anges. Alors est-ce que c'est vrai qu'on pourra régner sur les mauvais, mais rien n'interdit de penser que ceux qui sont déjà à notre service, nous aurons une autorité avec Christ. Il cite le psaume 8 de David. Et il fait quelque chose que je n'aime pas faire. Il cite sans donner une référence. Pour moi, c'est toujours important lorsqu'on cite un verset biblique ou une pensée de la Bible de pouvoir aller la vérifier soi-même dans le texte. Mais là, ce n'est pas son but. Il s'adresse à des gens qui connaissent bien la Bible de l'Ancien Testament. c'est-à-dire de l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament essentiellement, et on sait que les enfants apprenaient par cœur les psaumes, donc c'était quelque chose qui était inné quelque part chez eux, et c'est quelque chose qui devrait être inné chez nous si nous étions tous vraiment plongés dans la Bible régulièrement, si on l'écoutait, si on la lisait, si on y réfléchissait de façon quotidienne, de façon personnelle, de façon habituelle. On ne devrait pas avoir à vous donner la référence. Je n'aurais pas à me essayer de me rappeler la référence. Et c'est même un peu, ça paraît un peu cavalier, la façon dont il parle. Il dit, oui, il y a quelqu'un, quelque part, au lieu de dire David, le psalmiste, dans le psaume 8, a dit, mais ça met en même temps l'accent sur la révélation, sur le contenu, et pas tant sur la mise en forme. Les versets, c'était d'ailleurs les numéros des versets ont été inventés beaucoup plus tard pour permettre aux gens justement de désigner un passage biblique et tout le monde peut savoir de quoi on parle. Mais à l'époque, il n'y avait pas de psaumes, de numéros de versets. Peut-être qu'il y avait des numéros de psaumes, ça sera vérifié. Mais c'est quelqu'un quelque part qui a dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» ou « Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Qu'est-ce que l'homme dans l'infinité de l'univers ? Par la science moderne, nous avons accès à des images montrant l'univers qui peuvent même traduire des ondes électromagnétiques en couleurs. Et on est devant les photos du télescope de Hubble et on nous dit qu'en fait, ça c'est des galaxies, qu'il y en a des milliers, des milliards même, et que nous habitons dans une galaxie, celle qu'on appelle la Voie lactée, et que là il y a aussi des centaines de milliers de soleils, d'étoiles qui brillent, mais nous appartenons à ce système du Soleil, qui est une très grande étoile, à notre échelle, mais nous sommes sur une petite planète qui tourne autour de cette étoile en un an, en 365 jours et quelques poussières, qui fait qu'on équilibre un peu. Et puis, si vous avez jamais pris l'avion, vous voyez qu'en fait, c'est rapidement, lorsqu'on décolle, on voit les gens, les voitures qui vont devenir des tout petits points. Et on est vraiment peu de choses physiquement. Quelqu'un a dit que l'homme est comme une démangeaison de l'épiderme d'une planète mineure, pour abaisser nos idées de grandeur. On se croit tout puissant parce qu'on a découvert quelques vérités scientifiques, on peut faire des machines, on peut faire des ordinateurs, mais qu'est-ce que nous sommes vis-à-vis de l'infini ? C'est cette émotion du psalmiste, et vous l'avez vu vous-même si vous êtes sorti un soir d'été ou un soir de printemps quand il y a toute la nuit étoilée, et de voir l'immensité des cieux et de se dire, mais qu'est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce que je suis ? Ça peut être décourageant, en même temps ça peut remettre les choses en place, ça peut être une source de sérénité. On se dit, tous les problèmes qui agitent mon esprit, qu'est-ce que c'est vis-à-vis de tout ça ? Les conflits, les guerres, les élections, les manifestations. Qu'est-ce que c'est devant l'immensité, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se soucie de lui ? C'est un mystère, mais en même temps, il nous a créés. Et il a des projets particuliers, il veut nous bénir. Et il dit en fait que la Bible nous dit quand Dieu a créé le monde, il lui a donné l'autorité sur la terre, dans la Genèse au chapitre 1. Vous pouvez vous y tourner, c'est facile, c'est le tout début de votre Bible. Les versets 26 à 28 de la Genèse 1. Puis Dieu dit, après avoir créé l'univers, après avoir créé le ciel et la terre, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu a chargé l'homme de gouverner la terre. Mais vous savez que l'homme a choisi de désobéir à Dieu lorsqu'il a écouté Satan, qui lui a dit qu'en fait Dieu ne voulait pas qu'il soit aussi puissant que lui, et c'est pour ça qu'il lui avait donné cette interdiction de prendre de l'arbre de la vie et de la mort. Et on sait que c'était un mensonge qui était destiné à faire chuter l'homme, à lui faire désobéir, à le faire désobéir à Dieu. Lorsque l'homme a choisi de désobéir à Dieu, il a obéi à Satan. Maintenant, il est devenu prix Nobel, donc ses paroles ont encore plus de poids. Bob Dylan qui disait « Vous allez devoir obéir à quelqu'un. Ce sera Dieu ou ce sera Satan, but you are going to obey someone. » Et l'homme, en désobéissant à Dieu, a obéi à Satan. Et Paul l'explique dans Romains 16, dans le chapitre 6 de Romains, au verset 16. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. En désobéissant, l'homme a donné l'autorité qu'il avait sur la terre, il l'a donnée à Satan. C'est confirmé dans l'épisode de la tentation de Jésus dans le désert, dans Luc 4, 6, vous vous souvenez, le diable montre tous les royaumes du ciel à Jésus et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas cherché à contredire Satan sur ce point. Il ne l'a pas repris. Et la vérité, c'est que l'homme n'est plus le souverain de la terre. Satan est devenu le chef du monde, le prince de ce monde. Il est dit dans Jean 14, 30. Paul parle de lui comme étant le prince de la puissance de l'air. Jean dira dans 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital à comprendre. C'est que le monde tel qu'il est, tel que nous le voyons aujourd'hui, n'est pas le monde tel que Dieu le veut, tel que Dieu l'a destiné à être. C'est le monde tel que le péché de l'homme et la domination de Satan l'a rendu. Il suffit d'ouvrir le journal, de regarder sur Internet les nouvelles, de voir les souffrances, les guerres, les maladies, les morts, la haine, la violence. Christ a remporté la victoire sur Satan à la croix. Et dans ce sens, il a redonné la domination à l'homme. Mais pour l'instant, et c'est ce qu'il dit, maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Alors, au départ, il parle de l'homme, dont il est question dans le psaume 8, mais il parle aussi du, de Jésus qui est le Fils de l'homme. Et dans le contexte, on peut considérer qu'il dit que c'est la réalité lorsqu'on voit le monde tel qu'il est. Le monde entier n'est pas soumis à Jésus-Christ, pour l'instant. Il l'est potentiellement. Dans Éphésiens 1, il est dit que Jésus a repris le pouvoir. Mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas revenu, on voit les souffrances, on voit que Jésus n'est pas revenu reprendre Satan en main. Pas encore. C'est ce qu'il va faire lorsqu'il va revenir à la fin des temps. Il va régner pendant 1000 ans et là, Satan sera mis hors d'état de nuire. Mais c'est le reproche qui nous est souvent fait en tant que chrétiens. Si Dieu est si puissant et si bon, pourquoi toutes les souffrances, pourquoi toute la misère du monde ? Encore une fois, Dieu nous laisse la liberté d'aller vers lui ou de le rejeter. Mais là, pour l'instant, tout n'est pas sous ses pieds. Éphésiens dit justement que tout a été remis sous ses pieds, mais ça a été fait, déclaré, vaincu. Il y a eu une victoire, mais elle n'est pas encore en application sur la terre. Parce que si tout était soumis à Christ, pourquoi la mort, pourquoi les maladies, pourquoi les guerres aujourd'hui ? Il y aurait une impossibilité à justifier la perfection divine, à justifier la puissance de Dieu et l'immensité de son amour. Et donc, il nous dit que... On sait aussi que le prince de ce monde a été jugé, ça c'est dans Jean 16, 11, mais il continue, Satan, d'exercer un pouvoir, une autorité usurpée. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose soit soumise à Christ. C'est comme si le jugement a été déclaré, mais il n'est pas encore appliqué. Il va revenir bientôt, et là, il va remettre les pendules à l'heure, comme l'on dit. Il va clairement indiquer qu'il a tout sous ses pieds. Et donc c'est intéressant, lorsqu'on lit les commentateurs, certains n'osent pas dire que tout n'est pas sous les pieds de Jésus maintenant. Ça paraît être un blasphème, mais pratiquement, c'est le cas, je crois. Et j'espère que ce n'est pas une information erronée que je suis en train de vous passer. Mais vous-même, vous pouvez aller voir dans la parole, Jésus l'a appelé le prince de ce monde. Et Jean nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin. C'est des choses très fortes et qu'il faut... Je vous invite à ne pas prendre la parole pour argent comptant et à vous-même vous faire une opinion là-dessus. Alors c'est sûr que on va le voir couronné de gloire et d'honneur. Et on peut même déjà le voir couronné de gloire et d'honneur. Il est monté dans les cieux, il règne avec Dieu sur l'univers, mais il va revenir s'occuper des hommes et de la terre qu'il a créée et avec qui il va régner pendant 1000 ans. Il est dit, ce Jésus, nous le contemplons, nous le voyons. C'est verset 9. Juste une parenthèse, il dit que tu l'as abaissé pour un temps au-dessus des anges, en parlant de Jésus au verset 9. Toutefois, celui qui a été baissé pour un peu de temps, combien de temps ? C'était 33 ans. C'était le temps où il a pris son costume d'homme, où il a revêtu son humanité. Maintenant, il est retourné dans les cieux, mais il a toujours son humanité. Il n'a pas rejeté son humanité. Et lorsque nous étions à l'école biblique au Canada, on avait un professeur écossais, Ted Randall, qui avait un accent écossais très fort. Et il nous disait, il avait un sermon fantastique qui nous disait « There is a man in the glory. » Il y a un homme dans la gloire. la gloire des cieux auprès de Dieu, il y a quelqu'un comme vous et moi, avec un costume d'homme renouvelé, c'est sûr, un costume d'homme perfectionné, pour être justement en présence de Dieu, c'est ce corps de salut que nous allons recevoir à notre mort ou lorsque nous serons enlevés au retour de Dieu, de Jésus, si nous n'avons pas, nous ne sommes pas encore décédés. Mais there is a man in the glory. Et rappelez-vous de ça, il y a un homme dans la gloire. Ça veut dire qu'il y a, il y a quelqu'un qui vous comprend. Et c'est le reste de ce chapitre, de ces versets. Il va nous montrer qu'en fait, Jésus s'est humilié pour nous. C'est ce que dit Paul dans Philippiens. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Il s'est fait homme, lui qui était Dieu de toute éternité, de toute puissance, dans la gloire. Et maintenant, par la grâce de Dieu, verset 9, il a connu la mort pour tout être humain. Il a accepté de mourir pour que nous n'ayons pas à connaître la mort. La mort loin de Dieu. Il a goûté la mort physique, mais il a aussi goûté cette mort spirituelle lorsqu'il a été séparé pendant un temps de l'amour de son Père, de l'unité parfaite dont il avait fait l'expérience pour l'éternité de l'éternité. Il a goûté la mort pour que je n'ai pas à la goûter. Il parle des souffrances de Christ au verset 10. Son humanité a été montrée dans ses souffrances. La version qui s'appelle le français fondamental, la version Parole de vie, en français fondamental, on distingue des différentes versions de la Bible par le nombre de mots dans le vocabulaire qui sont utilisés. La Bible courante utilise un vocabulaire de 10 000 ou 15 000 mots suivant les versions. Il y a des versions plus simplifiées. La Bible en français courant utilise 5 000 mots. Et puis la Bible Parole de vie, c'est en français fondamental, n'utilise que 3000 mots. Donc ça permet d'être largement compris par des gens qui n'ont même pas fait beaucoup d'études ou qui n'ont pas l'habitude de lire. Et ce verset 10, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Il parle de Jésus, et la version français fondamentale dit « C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire, puisque c'est Jésus qui les sauve. Il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. » Alors, est-ce que ça veut dire que Christ n'était pas parfait lorsqu'il est venu sur terre et que c'est grâce à ses souffrances? Non. Le mot de perfection, ça veut dire quelque chose qui est parfaitement adéquat pour la fin recherchée. Il est venu pour sauver les hommes et ça devait passer par sa mort, par ses souffrances. C'est pas comme s'il avait été purifié d'impureté. Mais il a été parfaitement rendu complet, il a été parfaitement équipé pour sa mission de mourir pour notre salut par ses souffrances. Et en fait, on peut rappeler que cette souffrance, elle fait de lui quelqu'un pas inférieur aux anges, bien au contraire, elle lui permet de faire une œuvre qu'aucun ange n'aurait pu accomplir. Cette souffrance, il est dit qu'il est l'auteur, verset 10, l'auteur de leur salut. L'auteur, c'est aussi, on pourrait traduire ça par le chef, le capitaine, l'auteur, le prince. C'est un mot qui est utilisé, repris, qui veut dire le leader, le pionnier, celui qui est, c'est lui qui a amené le salut. Et je vous rappelle, la semaine dernière, on a vu que c'était un si grand salut. Pourquoi c'était un si grand salut ? Petite anecdote, j'avais prêché donc dimanche dernier sur le thème d'un si grand salut. Et je reçois un magazine sur l'informatique et je l'avais mis à côté de ma table de chevet. Et le lendemain matin, le lundi, j'allume la lumière en me réveillant et il y avait sur le dos de la couverture du magazine, il y avait « Salut » marqué en grand avec des lettres splendides. Et j'ai dit « Oui, c'est un si grand salut ». En fait, je crois que c'est une pub pour une voiture. Mais j'ai été frappé, c'est un si grand salut, c'est l'auteur de notre salut. De fait, verset 11, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il vient de Dieu, il est Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, il nous communique le Saint-Esprit. C'est lui qui procure la sainteté, verset 11. Et cette chose étonnante, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. On a, malheureusement, des fois, quelques-uns d'entre nous ont honte de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait hier matin ? Tu es allé faire du sport ? Je me suis levé tard. Tu n'es pas allé à l'église des fois quand même. Tu ne me dis pas que tu vas à l'église. Non. Des fois, on a honte. Mais généralement, on comprend qu'on n'est pas à avoir honte de lui, lui qui est Dieu, qui est mort pour nous, qui a tout fait pour nous. Par contre, se connaissant de l'intérieur, on ne serait pas surpris que Christ ait honte de moi. Et Satan est là qui me rappelle, mais rappelle-toi ce que tu as fait hier soir ou la semaine dernière. Tu crois que Christ appelle vraiment son frère ? Est-ce qu'il... Non, il a honte de toi, ce n'est pas de toi dont il est question. Non, il est dit vraiment, et il cite des passages de l'Ancien Testament pour montrer cette relation des chrétiens avec Christ comme étant ses frères. Et je vous rassure tout de suite, mesdames, c'est le terme générique, ça voudrait dire aussi bien ses sœurs. J'ai eu deux sœurs, j'ai pas eu le privilège d'avoir un frère, mais de penser que Christ m'appelle son frangin. Lui, il a le droit de dire frangin. Moi, j'ai du mal à dire salut frangin. Ça serait pas très bien vu parce que ça serait manquer un peu de respect. Mais en même temps, il veut pas être de distance. Il nous appelle ses frères. Il n'a pas honte d'être qu'on l'appelle lui le frère des hommes. Pourquoi ? Parce que « there is a man in the glory ». Il est resté homme à 100%, et il est dans les cieux. Il est Dieu à 100%, il est venu sur terre. Il est ce mystère, il est ce frère. C'est absolument difficile à comprendre, à saisir, à envisager, à mettre dans nos petits esprits. Lorsque Jésus parlait à Marie, après sa résurrection, il disait « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ça, c'est Jean 20, 17. Et le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Il cite non seulement le grand psaume de la croix, le psaume 22, 23, qui dit « Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » C'est le verset 12, mais c'est un verset qui vient du psaume 22, c'est le verset 23. Et puis, il parle des enfants en faisant allusion au passage d'Ésaïe 8, 17 et 18. En disant « Je me confie en lui, me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Ça, c'était le prophète Ésaïe qui parlait et qui faisait allusion à ses enfants. Les enfants qui ont été donnés, ce commentaire que Dieu lui a donné, ici, il s'applique à nous, les chrétiens, qui sommes les frères de Christ. Et verset 13, et encore, il dit, je me confierai en lui, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés, puisque ces enfants, verset 14, ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Il est venu vivre en chair et en os. Et ainsi, par sa mort, il est dit qu'il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a exercé cette puissance de vaincre, d'écraser. Certains versions plutôt. Il a écrasé, il a mis hors de service, il a rendu inefficace Satan. Il a pu rendre impuissant, c'est la traduction second 21, celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. L'idée, c'est que Satan continue de vouloir nous faire peur, mais par la mort, sur la croix, Jésus l'a rendu impuissant à le faire. Quand j'étais étudiant, j'avais acheté une voiture pas très chère, une vieille Simca 1000. Pour ceux qui savent ce que c'était, ça ressemblait à une savonnette. C'était un petit rectangle. Et la personne qui me l'avait recommandé me disait, tu sais, c'est pas une très bonne occasion, mais ça permettra de... Tu peux aller de la CTU à la fac, et etc., mais à l'école, mais c'est pas garanti très longtemps. Hein. Et un jour, je me souviens, j'étais dans la voiture, et un feu rouge qui passe au vert, je donne un coup d'accélérateur, j'embranche la première, et rien ne se passe. Le moteur a vrombi. Ce qui s'est passé, c'est que l'embrayage avait lâché. Donc le moteur pouvait tourner à toute vitesse, il pouvait faire tous ses efforts et il faisait beaucoup de bruit, tout le monde l'a regardé. La voiture ne bougeait pas. Et c'est la même image, c'était avant les voitures et les embrayages, mais c'est ce même principe. Satan peut continuer à tourner de toute sa force, toute sa vitesse, tous ses plans, tous ses mauvais plans, mais Christ, par sa mort, permet que nous soyons désengagés de sa puissance. Puissance de la mort, qu'est-ce que c'est ? C'est des fois, il y a aussi là plusieurs interprétations, mais on peut rappeler que la loi de Dieu exige la mort pour le péché. Ézéchiel l'a dit brièvement, Ézéchiel 18, 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Moi qui commets du péché, je dois mourir. Satan, il a été celui qui, en premier lieu, en tentant l'homme et en lui racontant des mensonges, a causé le péché chez l'homme. Et même si il utilise un pouvoir qui ne lui appartient plus, il est un usurpateur, il peut réclamer justement, dans un sens, que le pécheur doit mourir, c'est vrai, et il avait donc l'autorité, la puissance d'exiger que tout pécheur doit subir, doit payer la pénalité, la peine attachée au péché. Et il nous rappelle qu'en fait, on doit mourir. On doit mourir. Et à cause de cela, tous les hommes, parce qu'ils sont pécheurs, comme moi, on est dans la crainte de Dieu, on est même esclave, c'est ce qu'on avait rappelé, on est dans l'esclavage de celui à qui on obéit. Et il voudrait nous faire croire qu'on doit, à cause du péché, le servir, servir Satan. Mais c'est sans compter justement sans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Lui, notre frère, notre chair et sang, quelque part, il a pu briser cet embrayage. Et maintenant, nous n'avons plus à craindre la mort. Il a libéré, verset 15, tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Alors, est-ce que vous avez peur de mourir ? C'est pas une question piège. Moi, j'ai peur de mourir. Mais le chrétien n'a plus à avoir peur de la mort. Et c'est ce que le grand théologien Woody Allen disait, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est le processus de mort qui me fait peur. Et c'est vrai que imaginer qu'on se noie, qu'on est électrocuté, qu'on suffoque parce qu'on ne peut plus respirer, qu'on a une douleur intense qui nous plie en deux, pour ceux qui côtoient les mourants, ceux qui côtoient la mort, c'est quelque chose qui n'est pas enviable, c'est pas quelque chose, et donc si vous avez peur du processus de la mort, c'est normal, ne vous condamnez pas. Par contre, la Bible nous apprend qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas à redouter la situation d'être mort, parce que la mort m'est un gain, disait Paul, lorsque je meurs, je suis avec Christ, et c'est bien supérieur à être ici-bas sur la terre avec d'autres hommes et femmes. La mort m'est un gain, c'est quelque chose de fantastique, on n'a pas à craindre la mort. Alors c'est vrai que le passage entre les deux états peut nous inquiéter, et n'ayez pas de remords ou de ne vous sentez pas coupable. Mais par contre, si vous avez peur de ce que l'avenir vous réserve d'être mort, alors là, vous avez besoin de parler à quelqu'un qui peut vous expliquer ce que la Bible annonce et de vérifier que vous avez vraiment placé votre confiance en Christ. C'est un sujet dont on n'aime pas trop parler, notre propre mort. Et le ratio, pourtant, est de 100%. On va tous y passer, sauf si Jésus revient et nous enlève avant, dans ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. On disait que ce serait peut-être mieux d'être dans la première partie de l'Église parce qu'il y aurait juste la verrière à traverser, alors que là, il y a 4 étages et du béton. Ça, c'est une plaisanterie. On sait que on est fait de vide qui tourne très vite. Si on était réduit, on dit qu'on pourrait réduire, si on enlevait le vide atomique entre les noyaux et les électrons, on pourrait réduire un building de New York à la taille d'une cerise qui pèserait des millions de tonnes. Il a libéré de la mort, de la peur de la mort. Et il fait remarquer, en effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Et là encore, il assume sa prépondérance vis-à-vis des anges. Ce n'est pas des anges qui sont appelés à régner, ce n'est pas les anges qu'il vient aider, Et c'est un plan qu'il avait dès la Genèse, dès le départ, dont on le voit dans la Genèse 3:15, que Dieu allait venir sauver l'homme qui venait de pécher par le fils, par un descendant de la femme, qu'il allait briser. On peut lire ce verset, Genèse 3:15. Vous entendrez peut-être des théologiens des fois parler du proto-évangile. Proto, ça veut dire prototype, c'est la première version, la première révélation, c'est la première annonce. C'est dans Genèse 3:15. On peut lire à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, qui représentait, qui était le diable, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Là, c'est une allusion à Christ. Christ aura le talon blessé à la croix, mais Christ, par sa mort et sa résurrection, c'est sa résurrection qui va écraser la tête à Satan. Satan sera vaincu à la croix. Et c'est à la descendance d'Abraham, c'est d'abord aux Juifs, et ensuite nous sommes nous aussi des enfants d'Abraham dans la foi, il nous vient en aide. Et verset 17, par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Encore une fois, Dieu est 100% homme, il est devenu semblable en tout à nous. C'était un petit bébé qui souillait ses couches, c'était un petit bébé qui avait besoin de dormir, qui avait besoin d'être nourri par le sein de sa mère, c'était un petit bébé qui a grandi, mais jamais il est dit il n'a commis de péché. Et c'était afin qu'il soit un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service. On a rappelé ce qu'était qu'un médiateur. Le grand prêtre, c'était le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui qui représentait Dieu sur la terre. Et c'est lui qui représentait les hommes devant Dieu. Et c'est la tâche de Christ qui le fait parfaitement. Il est un parfait grand prêtre. On va y revenir dans la lettre aux Hébreux, en beaucoup plus de détails. Mais il était un grand prêtre rempli de compassion. Il nous aime. Il souffre avec nous. Et il est fidèle dans le service pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et là aussi, la lettre va revenir sur ce sacrifice parfait qu'il a été. Les grands prêtres, à l'époque, devaient présenter un sacrifice chaque fois qu'ils voulaient rentrer dans le sein des saints. D'abord un sacrifice pour eux-mêmes, et ensuite ils offraient un sacrifice pour le peuple des Juifs. Mais c'était simplement une couverture. C'était quelque chose qui recouvrait le péché pour un temps. Et je ne sais pas si vous avez déjà renversé du vin sur une belle nappe blanche. Ça vous est arrivé peut-être. Alors qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le temps de changer la nappe? On met un joli bouquet de fleurs dessus. On recouvre. On fait une couverture. Et on cache le péché, et c'est comme s'il n'y avait pas eu de péché. Mais on sait bien qu'une fois que les invités sont partis et qu'on regarde la table, oh là là. Et là, il va falloir la nettoyer complètement. Les sacrifices, c'était une dissimulation quelque part du péché. C'était pour un temps, mais on y reviendra beaucoup plus en détail, ne vous en faites pas. Christ, lui, il a fait l'expiation une fois pour toutes. Il a payé une fois pour toutes, et c'est comme s'il avait nous avait lavé complètement. Et on a du mal à penser que, aux yeux du Père, si nous sommes en Christ, nous sommes complètement purs et blancs. Parce que Satan est là de nous dire, ça marche pas, ça, tu devrais avoir peur de la mort parce que. Et la meilleure façon de le faire taire, c'est de vivre saintement. Il y a une joie de l'obéissance à Christ, c'est que les bruits du moteur de Satan ne nous inquiètent même plus. On sait qu'il n'y a plus l'embrayage, qu'il est tombé à la croix, mais on n'a plus à craindre. Et puis il nous dit, en effet, verset 18, on termine par ce verset, « Comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » La question, c'est est-ce que Christ aurait pu pécher ? Est-ce qu'il aurait pu être tenté et pécher ? Et la réponse est non. Alors on dit oui, c'est facile, parce qu'il était Dieu. Mais non, en fait, s'il a été tenté, ce serait un meilleur mot, c'est de dire qu'il a été testé. Lorsqu'on construit un pont rapidement ou un pont pour un temps, on va souvent mettre des tractopelles ou des rouleaux compresseurs sur le pont, pas pour faire tomber le pont, mais pour s'assurer qu'il tient. De la même façon, Dieu a tenté, ou plutôt le diable a permis, Dieu a permis que le diable vienne tenter Jésus, pas pour le faire chuter, mais pour montrer qu'il était bien qui il disait être. Il était... Quelqu'un a dit, j'aime bien ça, si Jésus avait péché, ça n'aurait pas prouvé que Dieu incarné pouvait pécher, ça aurait simplement montré que Jésus n'était pas ce Dieu incarné. Cette tentation, ce test, c'était pour l'indiquer à tous comme vraiment Dieu le Fils. Et ce qui est merveilleux, c'est que parce qu'il sait ce que c'est que d'être tenté, toutes vos tentations, même les tentations sexuelles, des choses auxquelles on n'associe pas du tout Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a été tenté par ces choses. Mais il peut secourir ceux qui sont tentés. Le mot de secourir, ça veut dire accourir au bruit d'un cri, d'un pleur. Autrement dit, il nous suffit de pleurer lorsque nous sommes tentés. Souvent, notre façon de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Comme ça, il n'y a plus la tension. Désolé Seigneur, mais je ne pouvais pas résister. Il nous dit que si, et c'est très con, ça me convainc de pécher, qu'en fait, lorsque je tombe dans le péché, je ne tombe pas, je décide de pécher, c'est parce que je ne suis pas allé à lui. Parce qu'il est capable, il peut, il est tout à fait capable d'accourir ceux qui pleurent, qui lui demandent « Ah, Seigneur, aide-moi !» Cette semaine, je vous invite, je ne sais pas si c'est un problème dans vos vies, le péché, mais la prochaine fois que vous êtes tenté, appelez votre grand frère. Amen. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es. Cet homme dans la gloire, Seigneur, tu t'es fait homme, tu es parfaitement homme, mais aussi, Seigneur, tu es tout puissant, tu es le Dieu créateur. Toutes choses ont été faites pour toi. Tu es celui pour qui et par qui toutes choses existent. Seigneur, aie pitié de nous. Merci parce que tu as tout fait pour nous. Pardonne-nous lorsque nous ne venons pas à toi pour demander ton aide, alors que tu es si désireux de l'accorder, Seigneur, que tu as tout fait pour être en mesure de nous secourir. Tu nous as non seulement sauvés, mais jour après jour, Seigneur, nous pouvons faire appel à ton aide, que tu ne refuses pas, Seigneur, à tes enfants, à tes frères. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.